Alors on continue notre série, on est toujours dans le même livre, 1 Corinthiens. Nous sommes au chapitre 9. Mais avant de commencer l'annonce de la parole de Dieu, voilà, je vais prier pour remettre ce message. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour ce privilège. Car Seigneur, depuis le début de ce culte, nous pouvons faire une chose que beaucoup ne peuvent pas faire dans ce monde ou n'arrivent pas à faire. Nous pouvons ouvrir ta parole. Nous pouvons te consulter. Nous pouvons nous tenir face à face devant toi pour que tu puisses regarder nos vies, pour que tu puisses sonder nos cœurs, pour que tu puisses, Seigneur, te faire connaître à nous. Car oui, ta parole le dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé. Enseigne-nous encore à te connaître mieux. Enseigne-nous, Seigneur, à progresser dans cette foi. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre selon toi. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute, tes serviteurs écoutent. Bénis cette assemblée, et qu'en ce jour encore, tu puisses être glorifié, glorifié tout simplement, parce que nous faisons ta volonté, que ta volonté se fasse. En Christ, je fais cette prière. Amen. Alors c'est bien, parce qu'on fait une série, et quand on fait une série, il y a des gens qui arrivent en route, et c'est bien de faire quand même un rappel simple de ce que l'on voit, depuis déjà quelques mois. Et si on fait un rappel du message précédent, on a appris qu'il y a une chose essentielle à comprendre lorsqu'on veut avoir la vraie connaissance, la connaissance qui édifie. C'est le verset qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. La fin du verset nous dit tout simplement « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». Et Paul se permet de dire ça parce qu'il est en train de reprendre et juger les Corinthiens, mais il se permet de le faire parce qu'il les aime. Et comme il les aime, comme il les porte dans son cœur, comme il les dit au premier chapitre qu'il prie pour eux, il remercie Seigneur pour la grâce qui était dans leur vie, il reprend, juge des gens qu'il connaît. Et il veut les édifier pour qu'ils soient eux aussi des hommes et des femmes qui aiment Dieu aussi, qui apprennent à aimer Dieu. Paul a travaillé parmi les Corinthiens, on l'a vu la dernière fois, pour leur faire bénéficier de toutes les richesses en Jésus-Christ. Et le terme qu'il a utilisé, c'est « ils ont été comblés ». Et quand on dit « comblés », c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à ajouter. Dans le sens où c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est suffisant, c'est énorme. Et donc, quand on décrit ce tableau, ils ont été comblés, ils ont été aimés, la parole de Dieu a été fidèlement annoncée, et dans ce verset qui dit qu'ils sont comblés, il est même dit que le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Donc c'est solide, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Et on pourrait décrire, mais quel beau tableau. Le tableau d'une belle église qui a tout reçu. Cette richesse, nous dit 1 Corinthiens 5, 7 et 6. 1 Corinthiens, pardon, 1, 5, 7 et 6. Il est dit, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Et verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Riche en paroles, en connaissances, Christ a été solidement établi, et qu'est-ce qui leur manque comme don? Aucun. Une église qui a tout pour réussir. Mais si vous vous souvenez depuis ce qu'on a lu, ce qu'on a enseigné depuis le début, est-ce qu'on peut dire que l'église de Corinthe a tout réussi? Cette église a été comblée en Christ, mais pour autant, se retrouve actuellement dans une très mauvaise situation. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rivalité, division, débauche. Cette église a été comblée en Christ, mais aujourd'hui recherche autre chose que ce qui les a comblés. Christ crucifié. Recherche autre chose que de tout simplement accepter la parole de Dieu. recherche autre chose que le pardon des péchés. Une église où l'on peut affirmer, depuis ce qu'on a vu, que les gens aiment la connaissance plus que Dieu. Une église où on a vu que la vision de Dieu s'est perdue, c'est-à-dire la sainteté, le salut des hommes, ça se perd. Une église où l'on voit concrètement que ce sont des gens qui aiment d'abord leur propre personne, avant d'aimer quoi ? Les frères et sœurs. Dieu, mais concrètement, ce que l'on voit de tous les jours, les frères et sœurs. Mais comme nous l'avons vu le dimanche dernier, l'amour édifie. Sans amour, c'est la ruine. Il n'y aura pas d'édification. En effet, ceux qui, comme Paul, se sont laissés connaître de Dieu, connaissent cet amour. Ils ont su comment Dieu les a aimés, et Dieu est entré dans leur vie pour le purifier, pour qu'ils puissent en parler, parler des bienfaits. Et quand Dieu rentre dans une vie, c'est toujours comme ça. Quand Dieu rentre dans une vie, il transforme cette vie. Il l'amène à la sainteté. Il la purifie. Il l'édifie. Et lorsque nous sommes purifiés, lorsque nous sommes rendus saints, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux autres ? Soyez saints. Elle est belle cette vie avec le Seigneur. Vivez avec le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le dire aux autres ? Parfois parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça représente cette vie avec le Seigneur. On ne trouve peut-être pas que c'est si bien que ça. Ou alors, bof. Mais quand vous trouvez quelque chose est très bon, vous allez en parler comment ? Tout le temps. Vous allez dire aux gens, mais viens, viens. Viens goûter cette vie. C'est bon. Et c'est ce que fait Paul. Il aime les Corinthiens. Il ne va pas leur dire, bon, ce n'est pas grave si vous vivez sans le Seigneur. Il va dire, mais c'est bon de vivre avec le Seigneur. C'est bon. Il a laissé Dieu l'aimer, il a vu comment Dieu l'a aimé, et il veut que les autres soient aimés de Dieu. Et la question que l'on va se poser déjà, c'est, est-ce que vous avez laissé Dieu vous aimer ? Parce que Dieu vous aime. On l'a vu la semaine dernière, Dieu vous aime, c'est un fait. Mais est-ce que vous laissez Dieu vous aimer ? Est-ce que vous le laissez rentrer dans vos vies ? C'était la question la semaine dernière. Est-ce que vous le laissez regarder ce qui ne va pas, vos péchés, pour qu'il les purifie ? Dieu a donné son Fils à la croix pour nous purifier de tout péché. Christ crucifié pour nous purifier de nos péchés. Dieu aime et quand nous laissons son amour vivre en nous, eh bien l'amour édifie. Alors il y a quelque chose qui se construit dans nos vies. Il y a un édifice qui se fait. Et on l'a vu plusieurs fois, quel est cet édifice qu'il construit dans notre vie ? Quel est cet édifice ? Quel est l'édifice ? Le temple du Seigneur. Vous êtes le temple de Dieu. Voilà l'édifice qu'il est en train de fonder chez vous. Un temple de Dieu en esprit. On peut le relire, hein, Corinthiens 6, 19 à 20. C'est ce qu'il veut faire chez les Corinthiens. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple ? On glorifie Dieu. Donc faites-le dans votre corps et dans votre esprit. Et ce temple, il appartient à qui ? À Dieu. Donc vous êtes dédié à qui ? À Dieu. Votre vie doit refléter quoi ? La présence de Dieu. Vous savez, nous sommes sanctifiés et on nous appelle des saints. Et on m'a posé la question la semaine dernière, mais c'est quoi un saint ? Parce qu'il y a des endroits où on dit un saint, c'est quelqu'un qui est canonisé, il devient saint. Ah non, je vous le dis tout de suite d'avance, vous n'êtes pas saint parce que vous faites des choses saines. Vous êtes saint parce que celui qui vit en vous est saint. Vous êtes un lieu saint. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de celui qui vit en vous. Parce que vous êtes son temple. Maintenant qu'il vit en nous, on l'a lu la dernière fois, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors Dieu vous connaît. Dieu connaît votre vie. C'est ça la vraie connaissance de Dieu que Paul voulait transmettre aux Corinthiens. Ce n'est pas une connaissance qui enfle, où on sait beaucoup de choses là. C'est une connaissance avec une vraie relation avec le Seigneur, de se dire, j'ai une vie avec Dieu. Et ma vie avec Dieu, elle correspond à ce que Dieu veut. Mon corps glorifie Dieu. Il faut comprendre, avant de continuer, tous les chapitres suivants. Et c'est ce qu'il essaie de nous dire, que c'est l'amour qui édifie. Et cet amour doit être mis en pratique. Oui, aimer Dieu, mais pratiquement, aimer les frères. Aimer Dieu, vous le savez, vous, et vous pouvez le dire. Mais aimer les frères, ça se verra. C'est pour ça que quand Dieu nous parle de quel est le commandement le plus important, il dira quoi ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et celui qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne les a pas séparés. Pour quelle raison ? Si tu fais l'un, tu fais l'autre. Et si tu dis faire l'autre, tu dois faire l'un. Les deux sont liés. Alors c'est ce que Paul a fait. Il les a aimés, cherchant à les édifier, chaque jour désirant s'éloigner du péché et amenant d'autres à faire comme lui, priant toujours pour voir la grâce œuvrer dans la vie des autres, acceptant même de perdre pour le bien de l'autre, de se s'édifier pour l'autre, d'édifier l'autre, pardon, pour que d'autres gagnent, pour enrichir d'autres. Et nous l'avons vu, il a comblé de toute richesse en ce qui concerne la parole de connaissance des Corinthiens. Il a donné. Et si vous vous souvenez, dans Actes 18, quand on a présenté comment a commencé l'église de Corinthe, il est dit qu'il s'est donné tout entier à l'enseignement de la parole. Tout entier. Il n'a pas regardé ni le temps, ni l'énergie, ni la santé. Il a regardé comment faire pour amener ces personnes à aimer Dieu. Annonçons-leur la parole de Dieu. Alors, dans le passage que l'on va lire en 1 Corinthiens 9, ne vous étonnez pas que ce qu'il va enseigner, c'est ce qu'il vit. Paul est riche. Peut-être pas de la richesse, ce que le monde attend, mais il est assez riche pour donner aux Corinthiens. Et en ce qui concerne son don, ça va être le don de la parole et de la connaissance aux Corinthiens. Il est riche de cela. Alors ce qu'il va faire pour leur donner ça, nous le verrons, il va se dépouiller pour habiller les autres. Il va aimer sans compter. Il va donner et donner gratuitement. Et s'il fallait ressortir une application de ce que nous allons voir aujourd'hui, on pourrait dire, dans tout ce passage, 1 Corinthiens 9, « Berger, donnez-vous pour vos brebis. Brebis, donnez-vous pour vos bergers. » Et c'est ce que la parole de Dieu va nous exposer dans le témoignage des Paul, dans ce chapitre qu'on va lire, jusqu'au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1er, jusqu'au verset 18. Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas ? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas ? Est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes ? La loi ne les dit-elle pas aussi ? Car il est écrit dans la loi de Moïse : tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine pour des bœufs ? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons pas usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai ma récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Voilà un passage, et c'est bien quand on lit une série, sur lequel on doit s'arrêter. Et qui nous enseigne une chose qui est assez simple, c'est qu'il y a des droits. Mais il y a aussi une manière de vivre que le Seigneur nous demande. Il y a la loi, mais on pourrait dire aussi, il y a une manière d'apporter la grâce et de vivre la grâce. Paul, dans ce passage de 18 versets, pose plus d'une quinzaine de questions. Il n'arrête pas, des questions. Mais ce n'est pas des questions où on doit se réfléchir en disant « Est-ce que c'est oui ou non ?» Si vous lisez le premier verset, « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu le Seigneur ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» C'est quoi la réponse ? Eh oui, c'est implicite, mais il amène les Corinthiens à réfléchir. Réfléchir sur sa situation. Il veut que les Corinthiens saisissent la manière dont ils doivent considérer son ministère. Alors il les amène d'abord eux à réfléchir. Il ne leur donne pas la réponse, réfléchissez simplement. C'est simple. Je suis libre. Et il vient de l'annoncer au chapitre 8, c'est quoi la liberté ? Eh bien, liberté, ça pourrait être de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il est libre. Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire ça ? Mais il pourrait pécher. C'est quoi le péché ? Ce n'est pas de manger de la viande ou, ne pas manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il a dit, en péchant contre les frères qui sont faibles et qui pensent que cette viande est encore une viande pour les idoles. Et donc je perds mon frère, si je perds mon frère, là j'ai péché. Si je ne prends pas compte de mon frère, j'ai péché. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Mais le problème ce n'est pas la viande, le problème c'est mon frère. Et je suis là pour annoncer l'Évangile et donc je suis là pour qu'il soit sauvé, qu'il vive selon la parole de Dieu et non pas pour le perdre. Je suis là pour qu'il vive l'Évangile, pour que son âme soit transformée. Alors il est libre, vous savez que je suis libre. Mais il va dire quoi ? Cette liberté-là, je n'en use pas d'un droit. Pas besoin. Ne suis-je pas apôtre ? Il est apôtre. Il l'annonce dans ses lettres. Et les apôtres ont une mission et des droits associés. Ils sont dotés d'une autorité spéciale. C'est à eux qu'a été donnée la capacité de fonder l'Église. Est-ce qu'il n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ ? Tout le monde le sait qu'il l'a vu, qu'il a été arrêté à Damas et qu'il a vu le Seigneur. Et encore à Corinthe, pourquoi est-ce qu'il a parlé ? Parce qu'il a vu le Seigneur et le Seigneur lui a dit « Parle !» Donc on le sait. Il a reçu sa mission directement de qui ? De Jésus. On le sait. Donc ce n'est pas comme si c'était quelque chose qu'il avait décidé tout seul. Il a reçu un ordre de Jésus-Christ. Et surtout pour les Corinthiens, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Vous savez ce qui s'est passé au milieu de vous. Vous savez comment il a enseigné pendant un an et demi et plus. Vous savez que vous avez connu le Seigneur par le biais de sa bouche. Vous savez que cette église a été fondée parce qu'il a obéi au Seigneur. Alors comment devait-il le considérer ? Il est clair que Paul a des droits qui accompagnent sa mission. Et on ne parle pas de servir l'homme Paul, mais de considérer le messager que Jésus-Christ envoie. Considérer son ministère et l'aider à accomplir sa mission. C'est ainsi que les Corinthiens auraient dû rendre tout simplement ce qui avait été donné. Comme ça nous a été bénéfique, comment peut-on t'aider pour que tu puisses amener la même chose ailleurs ? Comment pouvons-nous soutenir pour que tu puisses amener l'Évangile ? Comment pouvons-nous t'aider aussi à veiller sur nous ? Ça aurait dû être la conclusion des Corinthiens. Aider les apôtres dans la mission qui leur a été confiée. amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le fondement de Christ dans chaque ville. La parole de Dieu partout où il passe. Et nous l'avons lu, ils ont bénéficié de ce ministère. Les Corinthiens ont vu l'œuvre de Christ dans leur vie, suite à l'enseignement de la parole. Ils ont été comblés. C'est pour ça que Paul va dire, juste après, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, ok, les autres ne me connaissent pas. Les autres, ils n'ont jamais rien vu de ma vie, ok, ils peuvent dire je ne suis pas apôtre, mais je suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ils ne pouvaient pas nier les ministères de Paul. Ils ne le pouvaient pas. Et quand on ne peut pas nier quelque chose, il y a une manière d'y répondre. Quand on a été comblé, quand le travail de quelqu'un nous a été utile, comment considérons-nous ce ministère ? Est-ce que nous disons, bon, ça nous était utile, mais allez, ciao, ça ne m'intéresse plus ? Ou est-ce que nous considérons le ministère des autres ? Quelle considération avons-nous pour le travail qui se fait au milieu de nous ? C'est la question. Un ministère légitime enrichit les autres dans l'église locale. Le Seigneur donne des dons à chacun afin d'en faire bénéficier tout le corps. On le verra plus tard. Et les Corinthiens ont bénéficié du don de Paul. Le don de Paul, c'est d'enseigner l'évangile. Paul est celui qui a planté. Ils l'ont vu. Il est ouvrier de Dieu, serviteur de Christ, on l'a vu dans les chapitres précédents, un dispensateur de la parole que le Seigneur lui a confiée. Mais malgré son ministère évident, malgré son don évident, Paul ne faisait pas l'unanimité. Et au verset 3, il est dit même qu'il y avait des gens qui l'accusaient. C'est-à-dire qu'il disait, Paul, est-ce que vraiment il est apôtre ? Certains faisaient douter le ministère d'apôtre de Paul. Ce n'est pas la seule lettre où Paul en parle. Paul se dit qu'il y a des gens qui faisaient douter son ministère. Mais il le dit, au moins pour vous, je le suis. Et vous le savez. Et il va dire que vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et il ne va pas chercher à se défendre contre les accusateurs en disant, mais tu sais, c'est pour ça que je suis apôtre. Tu sais, c'est là. Non, il a dit quoi ? Quelle est sa défense ? C'est le changement dans vos vies. C'est votre vie que le Seigneur a transformée. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien de discuter avec les accusateurs. Il n'y a que ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, ce sont des vies transformées. Ce qui est vrai, ce sont des personnes qui passent des ténèbres à la lumière. Ce qui est vrai, c'est des personnes qui n'étaient pas capables d'aimer et qui maintenant sont capables de quoi ? D'aimer même ceux qui les accusent. Et c'est la vie de Paul. Paul enseignait toujours, même ceux qui l'accusaient. Et vous savez que dans cette église, est-ce que tout le monde était pro-Paul ? Il y en a qui disent, moi je suis de Paul, mais non, qui disent aussi, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi Paul, c'est pas mon truc. Pourtant, quand il s'adresse à tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est son ministère. Il va continuer à enseigner la parole et il va poser des questions simples qui vont faire comprendre aux Corinthiens que lui-même accepte de se dépouiller de besoins naturels, de besoins nécessaires à sa vie pour accomplir sa mission, pour enseigner la parole et amener l'évangile. Que nous dit le verset 4 ? Une question qui est un peu marrante. N'avons-nous pas le droit de manger ou de boire ? C'est quoi le problème ? Manger, boire. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être un droit spécial ? Vous avez un droit spécial pour manger ou boire ? Est-ce que c'est un ministère particulier ? Ah, ceux-là, ils ont le droit de manger ou boire et ceux-là, ils n'ont pas le droit. Tout le monde devrait manger et boire. C'est logique. Mais là, on est en train de comprendre que Paul dit, est-ce qu'on n'a pas le droit de manger et boire ? D'un air de dire, mais Corinthiens, parfois on a faim, parfois on a soif quand on travaille parmi vous, mais apparemment, ce n'est pas quelque chose qui vous travaille la tête. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de vous, comment dirais-je, qui n'est pas une évidence pour vous. Comme si Paul pouvait exercer son ministère aussi intensément sans que l'Église assiste à ses besoins pour manger et boire. Et il dit encore à la suite, N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas ? Donc il est en train de parler de tous les droits qui devraient être dus à quelqu'un qui sert le Seigneur. Et là, on vient de remarquer une chose, c'est que c'est écrit nulle part qu'un apôtre ou qu'un prédicateur ne peut pas être marié. Paul, il n'a pas dit qu'il ne peut pas être marié. Il a dit, on a le droit. J'ai le droit. Ce n'est pas ça le problème. On l'a vu la dernière fois. Lui, il a un don qui est le don du célibat, mais il a le droit. Et pourquoi il ne le fait pas ? Eh bien, pour l'évangile, pour se dédier entièrement à l'évangile. Il a fait un choix. Mais ce n'est pas une obligation. Il a le droit. Et il a fait ce choix pourquoi ? Pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur lui a demandé. Et il est capable de le faire. Il a le don. Est-ce que les Corinthiens étaient conscients que c'est parce qu'ils se dépouillaient de certains droits légitimes qu'ils pouvaient les enrichir ? La suite nous dit, ou bien est-ce moi seul et Barnabas, est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler ? Et vous savez ce que Paul a fait quand il est arrivé à Corinthe ? Quelle est la première chose qu'on voit qu'il faisait ? Il était avec Aquila, c'est Priscille, et qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait des tentes, il travaillait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas là une mission derrière qui était en train de leur dire « Tiens, vas-y, on va te soutenir, comme ça là-bas tu ne vas penser simplement qu'à travailler pour l'évangile. » Non, il travaillait. Et il a accepté. Mais il dit quand même « Est-ce qu'on n'a pas le droit de ne point travailler ? Est-ce que c'est normal que si on serve entièrement dans votre assemblée, vous ne nous souteniez pas ? On travaille pour qui ?» Il travaillait pour qui ? Là encore, pour les Corinthiens. Et on voit ici que Paul et Barnabas ont accepté. C'était leur vie. Ils travaillaient pour subvenir à leurs besoins. Ils indiquent pour autant que si quelqu'un travaille pour le Seigneur, il ne devrait pas faire autre chose que l'œuvre du ministère de la parole que Dieu le confie. Et Paul va s'attarder sur cette partie. Non pas pour lui, non pas pour que les Corinthiens apprennent à considérer son besoin d'argent, il n'a pas besoin d'argent, mais pour que les Corinthiens apprennent à considérer ceux qui œuvrent dans leur champ, leur édifice, leur vie, ceux qui enrichissent l'assemblée en les comblant de toutes les richesses par la parole et la connaissance en Jésus-Christ. Si nous sommes bien nourris, si nous sommes comblés, c'est que quelqu'un a travaillé. Si nous avons été amenés à un bon pâturage, c'est que quelqu'un nous a amenés à ce bon pâturage. Et Paul, c'est ce qu'il démontre, qu'il l'a enrichi. Et non pas pour les dépouiller, parce que ça, c'était la pratique de Corinthiens. Vous savez qu'ils ont quoi ? Des procès entre eux. Et chacun voulait dépouiller l'autre. Et personne n'acceptait de se faire dépouiller. Il n'y avait pas d'homme sage capable de juger, un homme sage capable de se dépouiller. Et Paul va montrer ce que c'est qu'être sage. Je vais me dépouiller. Pourquoi ? Pour vous. Paul aime les Corinthiens et il va donner sa vie, son temps, son énergie, son argent, sa santé. Il va obéir, servir Jésus-Christ pour édifier son Église, pour amener l'Évangile dans la ville de Corinthe. Paul aime, et quand il aime sans compter. Il ne compte pas son temps. Si vous lisez comment Paul travaille, il y a toujours souvent marqué qu'il travaillait jour et nuit. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dormait, mais c'est marqué jour et nuit. Et c'est un homme, c'est comme ça. Il est là pour que les gens soient à l'écoute de la parole. Il est là pour emmener les gens à aimer Dieu. Alors il les aime. Mais tout ça, ça a un coût. Un vrai coût. Il le dit, hein. Verset 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Des questions simples. Vous avez déjà vu un soldat à qui on dit « Bon, tu vas aller combattre, mais tu te débrouilles. Hein. Tu te débrouilles. Hein. Tu vas manger, tu te trouves pour manger, tu te débrouilles pour avoir tes armes, ton armure, tu te débrouilles pour tout. Mais tu combats pour nous. » Qu'est-ce qu'il va faire, ce soldat ? Ben, écoute, salut, hein, ciao, hein. je vais pas mourir et toi tu t'occupes même pas de moi, donc moi je me débrouille. Et puis, vous avez des gens qui plantent dans les champs pour faire grandir, pour rendre prospère, mais vous lui dites pendant qu'il travaille dans les champs, pendant qu'il sue, pendant qu'il s'épuise, hop, 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 tu manges rien, hein, touche pas à ses fruits. Hein. Vous voulez qu'il travaille, mais qu'il mange ses fruits. De toute façon, il ne va pas engloutir tout le champ. Il a juste besoin de quoi ? Avoir assez pour manger et pour boire. Et comment voulez-vous qu'il travaille ? Comment voulez-vous qu'il fasse paître le troupeau ? Si en plus il paie le troupeau, il les amène sur la bonne herbe, ils sont en train de se nourrir, de bien grandir, ils ont du bon lait. Et là, il dit, bah, y a pas de lait pour moi en fait. Donc il n'a rien à boire. Est-ce que c'est logique de travailler et de ne pas avoir de quoi manger et de quoi boire ? Et ce n'est pas logique, tellement pas logique, qu'au verset 8, il nous explique une chose simple. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes ? Si vous travaillez et que vous n'avez pas de salaire à la fin du mois, ça existe ça ? Qu'est-ce qui se passe ici si jamais ça arrive ? Allez, chacun son sort gilet. C'est parti ! C'est pas normal ! Et on sait que ce n'est pas normal ! Et dans les usages du monde, c'est pas normal ! Alors pourquoi ferions-nous pire que dans le monde ? Si des gens travaillent dans nos champs, eh ben, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Au-delà de ce que les hommes font, j'espère. Mais il n'y a pas que les hommes qui doivent avoir cette logique. C'est une loi de Dieu. La loi ne dit-elle pas, car elle est écrite dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » C'est une loi de Dieu. Dieu l'a déjà prévu. Quand le bœuf est en train de fouler le grain, donc il est en train de travailler. Ce n'est pas quand il fait ses vacances, quand il est de repos, c'est quand il foule le grain. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Manger. Et pendant qu'il travaille, il mange. C'est pour ça qu'on ne le muselle pas. C'est le moment où il doit manger. Et c'est pour ça que si vous constatez qu'une personne s'est mise au travail, en peine, parce que le travail d'un bœuf, ce n'est pas le travail. Bon, moi je travaille dans un bureau. Je ne pense pas que je travaille vraiment comme un bœuf. Je vous le dis. Je vois des gens qui travaillent dur. Je vois des gens qui dédient parfois, ils sont en sueur, qui sont à la fin d'une journée, qui n'en peuvent plus et qui n'ont envie que d'une chose, c'est de dormir. Et si vous constatez qu'une personne se met au travail en peine, au milieu de vous, pour vous, si une personne dédie son temps, son énergie, son argent, sa santé pour l'œuvre de Dieu, ne le muselez pas. Soutenez-le durant son travail. Aimez cette personne. Donnez-lui sa part. Donnez-lui du lait pour qu'il garde ses forces. Donnez-lui du fruit, pourvoyez à ses frais. Même dans les usages des hommes de cette société, c'est normal. Pourquoi dans les églises serions-nous pires que ceux du dehors ? C'est la question. Témoignons-nous de l'importance de l'œuvre de Christ ? Participons-nous comme des brebis comblées de richesses ? Ou participons-nous comme des brebis pauvres qui n'ont rien à donner pour l'œuvre du Seigneur ? Paul est obligé d'exposer la volonté de Dieu pour les Corinthiens. Il ne peut pas leur dire, c'est pas grave s'il ne participe pas. C'est pas grave si l'ouvrier ne mange pas, ne boit pas. Ou alors, il ne peut pas dire si vous participez ou pas, c'est comme vous voulez. Il ne peut pas dire ça. La loi de Dieu, elle est claire, tu ne muselleras pas le bœuf. Et s'il disait une chose contraire, il mentirait. La loi de Dieu est claire. Mais pour autant, Paul ne réclame pas l'argent. Il ne réclame pas les biens. Il ne reçoit pas un remboursement de ses frais. Ce qu'il vient d'annoncer, c'est pour le bien des Corinthiens qu'ils apprennent à aimer. Aimer comme Dieu aime. Car l'amour édifie. Si donc ils veulent édifier, qu'ils aiment Paul, qu'ils aiment l'œuvre, qu'ils aiment Christ. Car aimer, c'est donner. Si vous ne le savez pas, c'est comme ça que Dieu aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donner. Donner quoi ? Son fils unique. Et c'est donc pas la moindre des parts. C'est la part qui lui a coûté le plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose de très important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez la vision de Dieu, il ne veut pas voir l'homme quoi ? Périr. Mais il veut que l'homme ait la vie éternelle. Et ce qu'il a donné, ce n'est pas la moindre, c'est quelque chose qui lui est précieux. Et c'est pour ça que nous sommes amenés, non pas à voir comme si nous participions à l'œuvre comme quelque chose d'optionnel, comme quelque chose, un reste de notre temps, de notre vie, de notre argent, mais de ce qui est essentiel, le salut. Et le rôle de Paul, c'est d'amener l'évangile dans cette assemblée déjà, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que c'est une chose importante ? C'est la question qui nous est posée. Voilà pourquoi Paul ne peut pas passer en disant « je ne vais pas parler de ce sujet ». Il dit « j'en parle parce que vous devez apprendre ça, à aimer ». Et l'amour édifie, édifier, participer. Être berger donne un droit à Paul de vivre du lait de ses brebis. Avoir œuvré comme un laboureur au milieu de ce champ lui donne le droit d'espérer d'en vivre. Verset 10 jusqu'au verset 11, il nous dit « Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ?» Et non pas à cause des bœufs, donc. « Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. » Et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Quand on parle de ce sujet, il y a toujours la peur de se dire « Mais est-ce que je ne dis pas quelque chose qui pourrait glisser en disant « On essaie de profiter ?» des gens, et qui nous donne le bien temporel. Pourquoi ? Parce qu'on a enseigné la parole de Dieu. Mais depuis tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'enseigne Paul. Il ne réclame rien. Il est en train de dire, c'est pour vous. C'est pour obéir à Dieu. C'est pour apprendre à aimer. Et vous savez ce que fait Paul ? Des biens qui lui sont donnés ? Une villa, piscine. C'est ça ? Est-ce qu'il est en train de passer des vacances ? Combien de mois de vacances est-ce qu'il a eu depuis, avec cet argent ? Il n'a jamais pris. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? C'est pour le besoin des saints, il a dit. C'est pour le besoin. Ils ont besoin de quoi ? De manger et de boire. C'est tout. Qu'ils puissent annoncer l'évangile et ne pas penser à autre chose. La parole a été semée et ils ont été comblés. Qu'y a-t-il de plus précieux que d'être comblé dans le Seigneur ? Qu'y a-t-il de plus précieux que de connaître le seul vrai Dieu, que de connaître Jésus-Christ. Qu'y a-t-il d'autre au ciel que cette vie éternelle ? Et si vous pouvez vivre ça aujourd'hui, merci Seigneur, il a donné ces personnes qui ont cette mission d'amener la parole. Alors, lorsque nous sommes enrichis de tout cela, que sont ces biens temporels ? Que sont ce manger et ce boire ? Paul en a besoin pour ses déplacements, pour ses voyages, pour labourer, pour ne pas s'épuiser. Et ce n'est pas que les Corinthiens ne pouvaient pas donner. Le problème des Corinthiens, c'est pourquoi est-ce qu'ils donnaient et à qui ils donnaient. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite, au verset 12, « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ?» Ça veut dire que ce n'est pas que les Corinthiens n'avaient rien à donner, c'est qu'ils les donnaient à d'autres choses. On ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, Paul n'est pas en train de dire que c'est quelque chose qui est à nous. Donc il ne parle pas que de lui. Il parle de tous ceux qui travaillent pour l'évangile. Et parfois, nous avons cette côté d'être donné, mais pas là où il faut. Et si l'évangile est important, si la parole de Dieu est importante, si avoir des âmes sauvées est importante, si édifier est important, là où vous donnerez, c'est là où votre trésor, là, cela, votre cœur. Quel est votre trésor ? Où placez-vous vos biens temporels ? Mais il va dire une chose. Ok, je vous ai enseigné sur ça. Mais maintenant, c'est quoi notre vie à nous ? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ce n'est pas que les Corinthiens n'avaient pas de biens temporels, mais les donnaient à d'autres. Paul réclame ce fruit parce que c'est la volonté de Dieu. Mais même si les chrétiens de Corinthe n'agissaient pas conformément à ce que la parole enseigne, Paul aimait les Corinthiens. Il ne voulait pas mettre d'obstacle. Si c'est votre problème, si c'est votre faiblesse, laissez tomber. Paul aimait. Et on le verra plus tard, parce qu'on va arriver jusqu'au chapitre 13 qui nous parle de l'amour, mais je vais juste relire ce passage. C'est quoi aimer? C'est quoi l'amour? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais si il se réjouit de la vérité, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Est-ce que c'est la vie de Paul au milieu des Corinthiens? Vous voyez, il fait juste ce qu'il a connu de Dieu. Il les aime. Et il supportera tout, mais il excusera même tout. Il va les excuser de ne pas être capable de le faire. C'est ce qu'il fait. Il va croire que la parole peut faire des choses dans leur vie. Et il va espérer que ces Corinthiens changent de vie. Et il va supporter en attendant quoi? Nous souffrons. Il va supporter. Pourquoi? Parce qu'il connaît la cible. Ce n'est pas les biens temporels, c'est l'évangile de Christ. Et l'évangile au milieu de cette assemblée. Ils n'ont pas usé du droit. Ils n'ont pas créé d'obstacle à l'évangile. Que ceux qui veulent travailler dans l'œuvre s'arment de la même pensée. Apprenez d'abord à aimer ceux que vous voulez servir. Mais on ne va pas travailler pour faire valoir nos droits. Mais plutôt aimons. Amenons ce qu'il y a de mieux, l'évangile de Christ. Cherchons ce qui va édifier nos frères et sœurs. Le verset 13 à 15, les versets 13 à 15 nous dit: ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de le réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. On voit ce que les Corinthiens devaient faire. On voit ce que Paul fait. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées ou les fonctions de sanctification sont nourris par le temple. C'est vrai partout. Quand on a une fonction et qu'on sanctifie le temple, qu'est-ce qui sanctifie le temple pour nous? Qu'est-ce qui sanctifie? Avec quoi se sanctifie? Sanctifie-moi par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la parole, c'est Christ. C'est ça qui nous rend saints. Et la fonction, c'est d'amener quoi? La parole de Dieu. Pourquoi? Pour que les gens soient sanctifiés. Et si on est sanctifié, c'est le temple qui est sanctifié. Qui est le temple? C'est nous. Et si le temple est sanctifié, le temple aussi doit faire quoi? Nourrir celui qui sanctifie. Il fait un résumé simple de ce qui a été dit depuis. Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile, il le dira après. Mais ce n'est pas en sa faveur. Il le dit, hein? C'est assez fort. Alors, verset 15. J'aimerais mieux mourir que me laisser enlever ce sujet de gloire. Donc c'est quelqu'un, il ne recherchait pas ça. Au contraire, il dit, oh non, je ne veux surtout pas me dire que j'ai fait ça à cause de quoi? De l'argent. J'ai fait ça à cause de quoi? À cause des biens temporels. Moi, je fais ça à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu, pour sanctifier. C'est, sa gloire, c'est de vivre pour la parole de Dieu, de vivre pour le Seigneur, l'ordre qu'il a donné, pas pour les biens. Pas pour savoir si à la fin de mois, il va gagner 2 000, 1 500, 3 000 euros. Ce n'est pas ça. Il veut manger et boire juste, mais c'est surtout pour annoncer la parole de Dieu. Et si vous ne lui donnez pas à manger, il a dit qu'il souffrirait quoi? Juste certaines choses. Tout. Ce n'est pas grave. Mais ça n'arrêtera pas. Verset 16, 17. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. L'annonce de l'évangile, c'est pas Paul qui a dit « Tiens, un jour, je vais annoncer l'évangile. » On l'a vu depuis le début, c'est une charge qui lui est confiée. Et c'est un ordre de Dieu. S'il ne prêche pas, s'il n'annonce pas la parole de Dieu, si l'évangile n'est plus annoncé de sa bouche, il dit quoi ? Au verset précédent, malheur à moi. Pourquoi malheur à moi ? Parce qu'il désobéit. Il a un ordre. Donc, qu'il le veuille ou non, la nécessité m'en est imposée. C'est imposé. Et il pourrait dire, bon, ben, j'ai pas le choix, et puis, traîne des pieds. Ok, bon, je vais annoncer l'évangile. Ouais, mais bon, c'est Corinthien, t'as vu comment ce qu'ils ont dit de moi, etc. Bon, j'y vais. Il aurait pu dire, ben, c'est une charge imposée, et voilà l'attitude. Parce que vous direz que c'est une attitude qui convient. Non. Mais il dit, si je le fais de bon cœur. Verset 17. J'en ai la récompense. C'est un ordre de Dieu. S'il ne le fait pas, malheur à lui. Et lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, malheur à nous. Lorsque nous sommes appelés à servir le corps, que nous avons un don qui peut permettre de servir le corps qui nous a été donné par la richesse de la parole et qui a été semée dans nos vies, cette parole qui a été semée dans nos vies, si nous ne le faisons pas, malheur à nous. Nous devons participer à l'œuvre, que ce soit avec nos biens temporels, avec nos dons, c'est la charge de chacun. Que ce soit malgré nous ou non. Mais quand même, faisons-le de bon cœur. Motivé par l'évangile de Christ, comme Paul, parce que c'est déjà là notre récompense. Œuvrer avec le Seigneur, voir des gens suivre Christ, s'éloigner du mal, sortir du péché, être délivré de l'épreuve, être édifié lorsqu'on aime, lorsqu'on travaille pour le Seigneur, ce n'est plus une charge. Ça devient une récompense. Merci Seigneur de faire de nous des ouvriers avec toi. Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur de faire de moi un ouvrier ? Merci parce qu'il me permet d'œuvrer pour lui. Ou vous vous dites, oh, c'est dimanche encore là. Oh, samedi encore. Oh, vendredi. Oh, jeudi. Oh, 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 oh. Tout est oh. Où est-ce qu'on dit merci Seigneur ? Comment percevons-nous notre participation à l'œuvre du Seigneur ? Comme une charge ou comme une récompense ? Lorsque nous concluons ce passage, Paul va dire c'est quoi sa récompense ? Verset 18. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Combien il fait payer pour annoncer l'évangile ? Combien Dieu vous fait payer pour le salut ? Il vit comme qui, ce Paul ? Depuis le début. Il donne comme qui ? Comme Christ. Ne sois pas étonné qu'il ose dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » C'est ça la vie avec le Seigneur. Et aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner de son temps, parfois de sa santé, parfois de son argent. Mais c'est donner avant tout et ne pas chercher à prendre. Dépouiller. Et c'est vrai non seulement dans une vie d'église, c'est vrai dans la société et c'est vrai dans un couple aussi. Quand vous vous mariez, parfois elle dit « Ah, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter ?» C'est ça aimer aujourd'hui. Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir m'apporter quelque chose ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens, ils arrivent à aimer en regardant sur internet à quoi ressemblent les gens et se disant « Ah, tiens, celui-là, il correspond à ce que j'aime. » Donc il va pouvoir m'apporter ce que je veux. Mais aimer, c'est quoi ? C'est donner. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter dans la vie de la personne qui est en face de moi ? Et c'est ce que fait Paul. Il aime les Corinthiens. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter ? Et nous, en regardant cette personne, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à Paul ? Rappelez-vous, c'est ce qu'on a dit au début. Le sujet principal, c'est berger. Aimez vos brebis. Mes brebis, aimez-vous aussi vos bergers. Aimez ceux qui travaillent dans le Seigneur. Quand Dieu aime, il donne, et il donne gratuitement. Que nous aimons, comme Dieu nous a aimés, comment agirons-nous ? De la même manière, sans chercher à user de nos droits. Ne travaillons pas pour l'argent, pour les biens matériels, mais pour voir du fruit, le fruit de l'Évangile. Paul va dire ce qui est vrai, parce que c'est la parole de Dieu. Il ne va pas non plus tordre la parole pour dire « ne donnez pas ». C'est l'ordre de Dieu, donnez. Mais il va dire « moi, ce que je vous donne, c'est gratuit. Mon temps, mon énergie, ma santé, mon service. » C'est comme ça qu'on doit donner, comme le Père nous a donné. Il aurait eu et pu prendre ce ministère comme un travail, un peu comme vous allez au Pôle emploi. Bon, alors, est-ce qu'il y a une place ici pour servir dans une église? Ah, c'est combien le salaire? Il y a un salaire ou pas d'abord? Et celui qui a le plus gros salaire, c'est là où on va aller? Non. C'est celui où il y a des problèmes. C'est le choix de Paul, non? Il a dit qu'il va aller voir les Corinthiens plus tard, et c'est une église à problème. C'est une église où on se dirait, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il n'y a que des problèmes là-bas. Mais son rôle, c'est de quoi? D'amener l'évangile. L'évangile, vous l'amenez là où il y a quoi? Là où il y a la lumière déjà? Là où il y a des ténèbres. Il accomplit juste ce qu'il a à faire. Et c'est l'exemple qu'il nous montre dans notre service. Ne fuyez pas quand ça se passe mal. Si ça se passe mal, c'est là qu'on a besoin de vous. On va terminer avec ce verset qu'on verra dans chapitre 10, mais qui va être un petit peu canevas de la suite, de maintenant et la suite. Chapitre 10, versets 23 et 24, et on va conclure sur ce verset. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Comme Paul, comme Jésus-Christ, ne cherchons pas à tout prix à faire valoir nos droits, mais plutôt à amener le salut, à chercher l'intérêt d'autrui. Amen. Amen. Prions alors. Seigneur, nous voulons d'abord, dans tout cela, voir que c'est toi qui as cherché notre intérêt. Tu n'as pas regardé à tes droits. Tu t'es dépouillé. Tu étais et tu es Dieu, mais tu t'es dépouillé du droit de Dieu, du droit de roi des rois, pour venir en simple homme parmi nous. Tu t'es fait même serviteur. Merci Seigneur, parce que si tu n'avais pas fait ça aujourd'hui, nous serions encore dans nos ténèbres. Nous serions sans pardon pour nos péchés. Tu t'es fait sacrifice pour nous. Tu as souffert la mort jusqu'à la croix. Tu as souffert dans ton âme, dans ton esprit. Tu as souffert dans ton corps. Et Seigneur, comment pourrions-nous te le rendre jamais? Que cet amour est grand. Oh Seigneur, enseigne-nous à t'aimer. Regarde dans nos vies. Retire ce qui ne va pas. Enlève, Seigneur, ce péché qui nous ramène toujours à nous éloigner de toi. Nous voulons nous rapprocher de toi. Fais de nous un lieu saint, un temple qui soit à ton service. Que nous aimions les frères et sœurs. Que cela soit visible. Que nous soyons comme toi. Te ressembler, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous voyons que tu peux changer des vies. Et tu as changé la vie de Paul, cet homme qui haïssait les chrétiens, est devenu un exemple pour nous aujourd'hui. Un exemple d'amour. Et nous aussi, avant, nous haïssions, nous te haïssions. Et parfois, nous pouvons avoir des colères. Mais tu changes nos vies. Transforme. Bénis cette assemblée. Fais de nous une assemblée, une église, unie par ta parole, riche de ta parole, avec des dons utiles pour toi, pour le corps. Que cette église puisse grandir, mon Dieu, avec toi. Béni sois-tu, en tout cas, mon Dieu, parce que nous voyons tes bienfaits. Et nous voulons aussi l'annoncer aux autres, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos travail, partout autour de nous, qu'il est bon de t'appartenir. Seigneur, que nos vies soient un sujet de gloire pour toi. Et que toute chose puisse regarder à toi dans nos vies, à ce Dieu qui nous a aimés, à Christ crucifié. Et si certains ne te connaissent pas aujourd'hui, ici Seigneur, gagne leur cœur. Montre-leur cet amour. Merci en tout cas mon Dieu parce que tu as gagné nos cœurs. Et Seigneur, sans toi, nous péririons encore. Merci pour cet amour. Merci d'avoir donné ton Fils. Que toute la gloire te soit rendue encore dans ce culte et que chacun de mes frères et sœurs puisse grandir encore. Sans qu'il y ait cette prière. Amen. Amen.